l'âme. L'âme qu'on appelle 458, hein, c'est pas la blague. Hein? La balle 458 fait 9 tonnes et sa balance, elle est 9 ans. Elle fait tomber par rapport à un humain.
Un autre campement abandonné cette fois, sauf que nous y trouvons un indice.
Ça, c'est pas du poisson, par exemple. Là, surtout là, si c'est parce qu'ils ont, s'ils ont tué, par exemple, abattu un éléphant, ils peuvent prendre tout juste une petite partie pour une petite consommation, quoi. En général, c'est ce qu'ils font.
Oh, mais là,
une nouvelle journée s'achève. Les hommes échangent autour du feu. Le repas est rationné. Il est temps de se reposer. Nous avons parcouru 250 des 500 kilomètres de la rivière Ivindo. Nous arrivons désormais dans un camp que Pobalas n'avait jamais remarqué. Il y a des outils de braconnage abandonnés à la dernière minute, semble-t-il.
Ça ne fait pas longtemps. Et c'est la viande d'éléphant.
Les éco-gardes mettent la main sur un suspect, mais ils craignent que ses complices ne reviennent armés.
À tuer les éléphants.
C'est pas bon.
Ils ont 5 sacs. On va discuter tranquillement. D'accord ?
Comment il a la trouille.
Il a la trouille. Il ne veut pas répondre.
Dans le sac à dos, il trouve des cartes d'identité. Cet homme, originaire du Cameroun, et les autres du Gabon et du Congo.
Une hache qui a servi.
Il y a de plus en plus d'éléments de preuve. 3 cartouches, 2 balles, une hache pour extraire les défenses et une lance pour tuer l'éléphant.
Et celle-là, elle sert, vous voyez, il y a du plomb. Il n'y a pas de plomb. Y a... C'est-à-dire, c'est celle-là qu'ils utilisent, qu'ils mettent dans le canon. Ils prennent cette sagaie, ils la mettent dessus comme ça.
Aussi loin dans la forêt, l'équipe ne peut procéder à une arrestation. Il n'y a pas de place non plus dans le bateau pour ramener le suspect. Légalement, ils peuvent encore moins poursuivre les autres suspects au Congo.
On arrive, on se rend compte que la personne qu'on poursuit est peut-être de l'autre côté. Mais lorsqu'on arrive là-bas, on n'a pas de possibilité d'agir ou bien de mettre la main sur lui.
6 heures du matin, 8 soldats avec des armes automatiques nous rejoignent. Notre objectif est de poursuivre les traces que nous avons laissées la veille et éventuellement de retrouver la carcasse de l'éléphant qui a été tué.
Alors nous sommes maintenant en pleine forêt. On a quitté la piste qui avait été normalement utilisée par les chasseurs. L'idée maintenant de l'un des éco-gardes, Jean-Pierre, c'est d'essayer de trouver comment les éventuels braconniers ont pu rapatrier la viande ou les défenses jusqu'au camp de pêcheurs que nous avons repéré plus bas.
Les preuves de braconnage s'accumulent. Ici, des pièges pour les panthères et les pangolins. Mais aucun signe de défense ou d'éléphant mort. Même si les autorités décident d'arrêter les braconniers, elles ne sont pas en mesure de les détenir ici. Le plan initial était de créer un camp commun entre les 3 pays pour contrôler la zone et détenir les braconniers présumés. Mais il reste vide.
Oui, il est encore en construction. Oui. C'est maintenant l'inauguration qu'on attend. Pour qu'on commence le boulot ensemble. C'est un camp qui va servir les 3 pays. Donc on serait tous ensemble pour patrouiller sur l'Ivindo.
Alors que le gouvernement gabonais se mobilise pour rassembler des fonds et des fournitures, cela reste encore insuffisant. Les éléphants de forêt de Minkébé continuent à disparaître. Et les braconniers, eux, prospèrent.
Alors dans le reportage que l'on vient de voir, les éco-gardes manquent cruellement de moyens. Cosma Wilungula, les autorités sont-elles dépassées par l'étendue de la mission ?
Merci beaucoup. Je pense que les autorités ne sont pas tellement dépassées par l'étendue de la mission, mais c'est vrai que la mission est très très difficile avec beaucoup de défis. ce qu'il nous faut, c'est chercher à nous adapter effectivement aux nouveaux défis. Parce qu'il n'en était pas ainsi au départ, le braconnage n'était pas sous cette forme, mais aujourd'hui le braconnage a pris des formes multiples qui demandent effectivement aux autorités aussi de changer de stratégie, de renforcer pour arriver au bout de ça. Sinon, c'est un grand défi qui dépasse effectivement le niveau et des autorités et le niveau des gardes-parcs. Par rapport à tous les moyens qui sont utilisés par le braconnier.
Alors, des éco-gardes sous-équipés qui font face à des braconniers qui, eux, sont lourdement armés, car derrière les simples chasseurs d'animaux se cachent de vastes réseaux criminels, n'est-ce pas, Gaspard ?
Oui, Madame Morgan, merci de me donner la parole. Comme vous l'avez si bien vu dans le document qui a été diffusé, ici, le pasteur l'avait rappelé, nous n'avons plus affaire à un braconnage traditionnel qui était constitué de populations locales, mais plutôt à des cartels qui sont extrêmement organisés et qui sont également bien équipés. Et c'est là toute la difficulté qu'il y a à pouvoir assurer la mission de protection de ces espèces. Parce que les problématiques dont il est question ici ont largement dépassé le cadre de la conservation. Nous sommes plus dans des cartels qui sont très équipés avec des moyens les plus modernes. Et donc, en cela, il est important de pouvoir également relever le niveau des interventions tout en tenant compte des menaces.
Alors du coup, sachant qu'il s'agit de cartels criminels, est-ce que ces activités représentent un danger pour la sécurité des zones concernées, au-delà juste de la protection des animaux, Gaspard ?
Ah oui, absolument. Non seulement pour les agents qui sont sur le terrain, et on a pu le voir au cours des dernières décennies, le nombre de décès qui ont été enregistrés dans les écogardes au niveau de l'Afrique et partout dans le monde. Donc c'est un danger pour les agents qui travaillent au sein de la conservation, mais c'est surtout une grande menace pour les pays de la sous-région et pour les pays d'Afrique qui détiennent ces ressources patrimoniales. Parce que ce dont il est question ici, c'est pas juste la simple problématique de la conservation de la gestion de la nature, mais c'est plutôt la problématique de la sécurisation des pays et des territoires, parce que les niveaux de menaces sont tels que c'est plus simplement les seuls agents de la conservation ou les seuls responsables des agences publiques en charge de gestion de ces aires protégées qui seraient à même de revenir à la hauteur de ces types de menaces.
Alors il y a aussi un aspect juridique, hein. Les éco-gardes trouvent des preuves de braconnage, mais sans corps, ils ne peuvent arrêter le suspect. Cosma Wilungula, les lois sont-elles suffisamment adaptées à la lutte contre le braconnage ?
Oui, merci beaucoup. En fait, comme Gaspard l'a dit, comme nous venons de dire, nous pensons que les niveaux qu'a atteint le braconnage aujourd'hui est allé un peu plus au-delà de nos législations anciennes qui avaient prévu qu'effectivement, lorsque quelqu'un a détruit des ivoires, il doit prouver d'où il a tiré ces ivoires. Mais aujourd'hui, le défi est au-delà de ça. Donc, nos lois sont suffisamment assez dépassées par rapport au fait. Mais nous croyons que, très sincèrement, nous avons la responsabilité d'adapter ces lois. Parce que les conventions internationales qui prohibent, qui interdisent rien que le commerce des ivoires, effectivement, ne fait plus allusion à pouvoir détenir, à montrer l'éléphant qui est mort.
Oui. Enfin,
oui. Mais on peut juste montrer que quelqu'un a l'ivoire, l'ivoire est interdit, l'éléphant est à l'annexe 1, ça signifie espèce totalement protégée,
oui,
avec tous les produits et sous-produits,
oui,
donc on doit être en état.
Allez, on va marquer, pardon, je vous coupe, hein, mais le temps nous presse, on va marquer une courte pause, Washington Forum revient tout de suite.
We'll be right back.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Gros plan sur le braconnage en Afrique. Pour en parler de Kinshasa, Cosma Wilungula, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, chargé des parcs nationaux en RDC. Et en direct de Libreville, Gaspard Abiti, directeur de la Wildlife Conservation Society au Gabon. Nous partons en Tanzanie, la réserve de Selous, deuxième plus grand parc national d'Afrique, s'étend sur 55 000 km². Mais pour les éléphants, Selous est un vaste cimetière. Omar Kazeko et Ide Lingongo de VOA se sont rendus sur place. Ils nous parlent de la lutte contre le braconnage dans cette région.
Un paysage à couper le souffle, une faune riche, exceptionnelle. Mais c'est un royaume en péril et les éléphants sont en première ligne de mire. Les braconniers les massacrent sans pitié. En 2009, 114 000 pachydermes vivaient dans la savane. 5 ans plus tard, il n'y en avait plus que 43 000, 60% des troupeaux exterminés. En Afrique, le braconnage menace les éléphants et les rhinocéros. Traités internationaux, renforcement des opérations policières, des centaines de millions dédiés à la conservation. Les efforts se multiplient, mais rien n'y fait. Moubarak Kabalika est un menuisier du village de Tapika, à la frontière nord-est du Selous. Mais il a un autre métier, il est soldat bénévole en première ligne dans la guerre contre le braconnage.
Nous sommes des bénévoles parce que nous aimons faire ce travail. Nous obtenons également de l'argent pour améliorer nos écoles et nos soins de santé, car ces choses s'améliorent très lentement ici.
Le recrutement des locaux pour lutter contre le braconnage est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement tanzanien et le World Wildlife Fund. Le WWF fournit l'argent à des villages comme Tapika pour des projets communautaires. En retour, les villageois chassent les braconniers.
Au WWF, nous pensons vraiment qu'il n'y a pas de coopération entre les forces de l'ordre et les communautés. Si nous renforçons ce lien, les communautés seront des alliés. Ils peuvent voir ce que les forces de l'ordre ne peuvent pas.
Mais pour certains, le business du braconnage est plus alléchant. Des contrebandiers comme celui-ci se vantent d'avoir vendu de l'ivoire à l'étranger.
Pour traverser les aéroports tanzaniens, vous devez comprendre leur système en tant que transporteur. Dans les aéroports, vous avez des agents de sécurité, des vétérinaires et des douaniers. Vous devez soudoyer tous ces gens-là, car ils ne tamponnent pas. Car s'ils ne tamponnent pas votre colis, c'est difficile. Vous devez payer l'unité anti-braconnage, puis vous devez payer les écologistes au parc, et ensuite, vous devez payer la sécurité à l'aéroport.
Bien que la Chine continentale ait récemment interdit les ventes d'ivoire, le trafic se poursuit à Hong Kong et sur le marché noir. Les braconniers sont plus actifs dans la pénombre. C'est donc à la tombée de la nuit que la patrouille de volontaires se donne rendez-vous. Moubarak est le leader du groupe. Son équipe n'a qu'une seule arme, un fusil. À la limite de la réserve, ils laissent leur moto et effectuent une ronde à pied jusqu'au lever du jour. Une tâche difficile, des kilomètres parcourus à pied, aucun braconnier en vue.
Je suis ici depuis hier et je ne suis pas sûr de ce que je vais gagner pour mon travail. Qui que ce soit qui se cache dans la forêt, nous le traitons comme un criminel.
Ces volontaires sont pauvres. Lorsqu'ils tombent sur des braconniers, ils acceptent souvent des pots de vin pour les laisser partir. C'est à remettre en question l'intérêt de ces efforts. Combien de braconniers ont-ils été arrêtés au cours de ces patrouilles? Combien d'éléphants ont-ils été sauvés? Nul ne sait. Une chose est sûre, la pauvreté semble être le moteur du braconnage.
Des éco-gardes hein, qui envient presque le statut des braconniers. Gaspard Abiti, comment convaincre les communautés démunies de ne pas s'enrichir en tuant les espèces protégées?
Alors, déjà, dans un premier temps, il faut pouvoir tenir compte de la complexité de ce type de filière. Parce que ce dont il est question ici, ce sont des filières qui sont extrêmement bien organisées et où il y a des marchés assez lucratifs. Et donc, en cela, la problématique de la pauvreté, effectivement, est un des paramètres à prendre en compte, au même titre que la corruption. Mais il faut pouvoir, n'est-ce pas, développer des alternatives pour ces communautés, tout aussi appliquer à la.
Alors, je pense qu'on a un petit problème avec la ligne de Gaspard, mais enfin, je me retourne vers vous, hein, Cosma. Et finalement, ces chasseurs qui exécutent la sale besogne, ils ne sont pas si riches que ça. Le braconnage ne leur rapporte pas tant que ça, n'est-ce pas, Cosma?
Non, merci beaucoup. C'est vrai, le braconnage ne rapportait pas assez de ressources à cette population. D'abord, la population et ceux qui sont impliqués là-dedans ignorent même ce qui constitue le marché international du braconnage. Ils se contentent de miettes pendant que ceux à qui ils fournissent le produit du braconnage, ce sont ceux-là qui s'enrichissent dans leur réseau. Mais en plus, le braconnage dont qu'ils favorisent ne peut pas rapporter autant de ressources pour un pays qui est victime du braconnage, parce que ces animaux tués, effectivement, diminuent notre capacité d'opérer le tourisme, d'opérer d'autres activités qui peuvent être beaucoup plus productrices de ressources. Et cela pose des problèmes au niveau de nos États, lorsque nos populations riveraines qui favorisent, ou les populations qui sont avec nous, qui favorisent ce braconnage, ne réalisent pas le dégât qu'elle est en train de commettre contre cette grande ressource que nos pays détiennent et nos parcs détiennent. Mmh. Et ils continuent à rester dans la pauvreté pendant qu'ils enrichissent les autres.
Alors, Gaspard, hein, très concrètement, pour celui qui attrape l'animal, ça rapporte quoi?
Alors, ça dépend déjà du poids de ce qu'il peut avoir, mais en moyenne, vous êtes autour des revenus qui vont tourner autour de 10 ou 20 dollars, selon la prise. Alors que sur les marchés noirs asiatiques, les tarifs étaient déjà montés à plus de 4 ans, environ 2000 dollars. C'est vrai qu'avec les dernières mesures qui ont été prises par la Chine en 2017, on assiste quand même à une réduction du prix et on tourne autour de 750 000 dollars. Mais quand cela ne tient, l'écart il est suffisamment grand entre le trafiquant final et le petit braconnier qui se retrouve au niveau du village, qui ne gagne pas grand-chose. Et pour la petite histoire, vous trouverez rarement dans les pays africains des personnes qui sont devenues riches grâce au braconnage. Donc c'est quand même un comble de constater que vous avez autant de ressources qui quittent nos territoires pour enrichir les trafiquants qui se trouvent sur la chaîne finale. Et un autre élément aussi qui est important, c'est que très souvent ce braconnage d'animaux va également de pair avec l'extraction illégale des ressources, par exemple comme le cas de l'or ou d'autres types de minéraux. Et donc c'est en cela que les problématiques liées au trafic de la faune sont assez importantes, parce que vous avez des connexions qui s'établissent avec les pillages d'autres types de ressources naturelles.
Allez, on va passer à l'autre reportage. Hein. En 2017, la Chine a interdit le commerce de l'ivoire. Cependant, des gangs internationaux continuent d'entretenir le trafic des défenses d'éléphants et des cornes de rhinocéros. Une enquête visant ces criminels a abouti quand même à l'interpellation en Tanzanie de plusieurs individus, dont une résidente chinoise connue sous le nom de Reine de l'Ivoire. Le reportage de Zichum Lim à Dar es Salaam, présenté par Lionel Gaïma.
L'Afrique compte quelques 400 000 éléphants, la Tanzanie abritant l'un des plus importants troupeaux. En une décennie, 90 000 pachydermes ont été décimés par les braconniers. Une activité criminelle entretenue par la demande d'ivoire en Asie de l'Est.
Le plus grand marché de l'ivoire au monde est à Hong Kong. Plus de 30 000 objets en ivoire sont en vente dans les magasins de la ville. C'est donc un centre clé et le principal moteur de la crise du braconnage en Afrique.
La Tanzanie figurait dans le gang de 8, un ensemble de pays peu regardants en matière de la lutte contre le braconnage. Elle n'en fait plus partie depuis qu'elle a mis sur pied un groupe de travail chargé de traquer le groupe criminel impliqué dans le village de la Faune. Sa plus grande prise à ce jour, une femme d'affaires chinoise au nom de Yang Fenglan. surnommée la reine de l'ivoire, est languie depuis plus de 2 ans en prison et risque jusqu'à 30 ans de détention. Selon l'acte d'accusation, Fang a financé et géré la contrebande de plus de 700 défenses d'éléphants sur plus de 14 ans. Fang et sa fille, qui vivent en Tanzanie, rejettent cette accusation.
Ma mère est surnommée la reine de l'ivoire. Une fois, j'ai dit à son avocat, ma mère est innocente, elle est une reine de l'ivoire sans ivoire.
Les autorités tanzaniennes sont peu dissertes à ce sujet et ont refusé d'en parler à la VOA. En 2013, la perquisition de la police d'une maison de la banlieue de Dar es Salaam avait permis de saisir 706 défenses d'éléphants d'une valeur de 2,5 millions de dollars. 3 ressortissants chinois avaient été arrêtés en rapport avec cette affaire. Les policiers ont, par la suite, découvert une cargaison de près de 3 tonnes d'ivoire au port de Zanzibar, rappelle l'agence d'enquête écologique, une ONG de lutte contre le commerce illégal de la faune. 2 Tanzaniens interpellés ont identifié Yang comme l'acheteuse de l'ivoire. Selon son dossier d'inculpation, elle a avoué avoir activement pris part à la collecte, au transport, à l'exportation et à la vente des trophées gouvernementaux.
L'unité tanzanienne d'enquête qui a traduit en justice la reine de l'ivoire est composée d'un personnel hautement expérimenté. Les preuves qui l'incriminent sont solides et très détaillées.
Yang a passé plus de 2 ans en prison alors que son dossier traîne. Le marché noir de l'ivoire reste un problème. D'autant plus que la vente d'objets en ivoire ne sera pas illégale à Hong Kong avant 5 autres années.
La douane de Hong Kong saisit une immense quantité d'ivoire de contrebande. Cela signifie que la destination finale de l'ivoire est Hong Kong. C'est-à-dire qu'il existe un marché dynamique ici.
Du fait de la corruption, les frontières poreuses, des faibles lois de menace de violence, le braconnage a encore de beaux jours devant lui à travers l'Afrique.
Les braconniers sont des gens extrêmement dangereux et violents et ils bénéficient de la protection politique dans différents endroits.
Les prix de l'ivoire ont chuté après la décision historique de la Chine d'en interdire la vente. Les groupes criminels profitant du braconnage n'ont pas pour autant disparu.
Voilà, alors un commerce extrêmement lucratif sur les marchés asiatiques. Gaspard, comparé à ce que gagnent les braconniers africains, est-ce qu'on n'est pas une fois de plus dans le pillage des richesses africaines ?
Absolument, nous sommes dans cette problématique du pillage des ressources africaines. Et d'ailleurs, votre reportage l'a très bien démontré. Et c'est là tout l'enjeu et toute la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de braconnage, on est au-delà du braconnage. On est dans des logiques de trafic et de criminalisation où les populations sont les premières perdantes. Et c'est vraiment très important de pouvoir saluer les efforts qui sont faits par les États en termes de compréhension des enjeux, en termes de mobilisation. Et surtout que le problème dont il est question ici, c'est un problème qui dépasse largement les frontières nationales et qui nécessite un effort important de la communauté internationale pour pouvoir appuyer ces États afin de s'assurer que sur le terrain, les efforts sont suffisamment forts pour rendre le risque élevé pour les braconniers, mais également que pour les intermédiaires, il y ait des efforts qui se font en termes de coopération, d'échange d'informations, et enfin pour ceux qui sont dans la demande finale, que les efforts également soient faits par l'ensemble de la communauté pour réduire cette demande et pour traquer ces braconniers et ces trafiquants partout là où ils se tassent.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Ce seront les mots de la fin. Cosma Wilungula, Gaspard Abitsi, merci d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous ceux qui ont suivi et à l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Au revoir.